Désolée.
Allez, nous allons commencer. Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le petit poussé, pas du tout. Hein. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Non mais où et quand a-t-on vu des parents abandonner leur enfant, faute de pouvoir les nourrir? Non, allons. Non, dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui. Pauvre bûcheron, requis à des travaux d'intérêt public, au seul bénéfice des vainqueurs, occupant ville, village, champs et forêts, c'était donc pauvre bûcheronne qui, de l'aube au crépuscule, arpentait son bois dans l'espoir souvent déçu de pourvoir aux besoins de son maigre foyer. Fort heureusement, à quelque chose, malheur est bon, pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes n'avaient pas, eux, d'enfants à nourrir. Le pauvre bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. Pauvre bûcheronne s'en lamentait, elle, en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Pauvre bûcheron se levait avant l'aube afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêt général et même caporal. La pauvre bûcheronne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé, cette pauvre bûcheronne donc arpentait son bois en tous sens, recueillant chaque brindille, chaque débris de bois mort, ramassé et rangé, comme un trésor oublié et retrouvé. Depuis le début de cette guerre mondiale, des hommes requis, avec des machines puissantes, avaient percé son bois dans sa longueur, afin de poser dans cette tranchée des rails. Et depuis peu, hiver comme été, un train unique, passé et repassé sur cette voie unique. Peu à peu, elle régla sa vie, son emploi du temps, sur les passages du train. Alors, ce n'était pas un train d'aspect souriant, hein, de simples wagons de bois, avec une sorte d'unique lucarne, garnie de barreaux dont était orné chacun de ces wagons. Mais comme pauvre bûcheronne n'avait jamais vu d'autre train, celui-ci lui convenait parfaitement. Surtout depuis que son époux, répondant à ses questions, avait déclaré d'un ton péremptoire qu'il s'agissait d'un train de marchandises. Ce mot « marchandise » acheva de conquérir le cœur, flammer l'imagination de la pauvre bûcheronne. Marchandise ! Un train de marchandises ! Elle voyait désormais ce train victual de vêtements, d'objets, et elle se voyait parcourir ce train, se servir et se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à un espoir. Un jour peut-être, demain ou le surlendemain, ou n'importe quand, le train aurait enfin pitié de sa faim et au passage lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Quelquefois, une main dépassée d'une de ses lucarnes lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains lançait à son intention quelque chose qu'elle faisait en remerciant le train et la main. Ce n'était la plupart du temps qu'un bout de papier qu'elle défroissait avec soin et un immense respect avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir ?
Dès qu'il découvrit ce wagon de marchandises, wagon à bestiaux vu la paille au sol, il sut que leur chance était derrière eux. Jusque-là, de Pétivier à Drancy, ils avaient eu la chance au moins de ne pas être séparés. En vérité, les jumeaux s'étaient d'abord manifestés au pire instant, au printemps 1942. Était-ce le moment de mettre au monde un enfant juif? Pire, deux enfants juifs d'un coup. Fallait-il les laisser naître ainsi sous une bonne étoile jaune? Pourtant, grâce à eux, il en était sûr. Ils avaient passé Noël 42 au camp de Drancy, ensemble, toujours. Et même, leur bonne étoile et l'administration juive du camp lui avaient trouvé un emploi. Il venait presque de terminer ses études de médecine. Spécialité chirurgie, yeux, nez, gorge, oreilles. Mais à Drancy, lui avait-on dit, il y avait beaucoup de médecins. Beaucoup de malades, c'est vrai. Partout où il y a des juifs, il y a beaucoup de médecins. Et encore plus de malades. Mais comme deux de leurs coiffeurs venaient de partir, coiffeur, va pour coiffeur. Tant qu'il y avait eu les gendarmes français pour les garder, ils les avaient coiffés. Mais quand les gendarmes nationaux furent remplacés par des verts de gris, il ne lui resta plus que les membres de l'administration et quelques internés qui faisaient appel à ses services. Au printemps 42, les jumeaux avaient failli les faire passer, sans savoir d'ailleurs qu'ils seraient deux. Mais son épouse, après réflexion, avait souhaité les garder. Elle avait fini par mettre au monde deux petits êtres déjà juifs, déjà fichés, déjà clashés, déjà recherchés, déjà traqués. Une fillette et un garçon, hurlant en cœur, déjà comme s'ils savaient, comme s'ils comprenaient. Dans cette petite et discrète clinique d'accouchement, on leur proposa même de garder les enfants et de les confier à une famille sûre. Qu'est-ce qu'une famille sûre? Quelle famille pour eux peut être plus sûre que celle composée de leur propre père et de leur propre mère? S'était exclamée Dina, tout en serrant ses jumeaux contre ses seins avec fierté. Elle, qui malgré les privations, malgré Drancy, était, disait-on, pourvue de lait pour quatre. Et maintenant, cahotée dans ce train, elle était là, sur la paille, serrant contre elle ses enfants, sans lait pour les nourrir. Drancy avait eu raison, enfin, de son lait, de sa confiance et de sa foi. Là, dans cette cohue, dans cette panique, dans ses cris, dans ses pleurs, le père, le mari, le faux coiffeur, le pas encore médecin, mais déjà vrai juif, cherchait un endroit pour abriter sa famille. En observant ses compagnons de voyage, il eut une illumination. Non, on n'emmenait pas ces vieillards, cet aveugle, ces enfants, ces jumeaux et les autres, non, on ne les emmenait pas travailler. Alors, on les expédiait? Mais où? Dans quel endroit de ce monde voulait-on d'eux? Quel pays était prêt à les accueillir? Quel pays les aurait volontiers reçus en ce mois de février 1943? Non, le problème n'était pas là. Dina n'avait plus ou que très peu de lait. Drancy avait taré ses seins. Elle était écrasée au sol, là même où il y avait, il y a peu, des vaches ou des chevaux qu'on emmenait certainement vers un abattoir. Elle avait étalé son châle de laine des Pyrénées, qu'on lui avait laissé par grâce pour envelopper ses jumeaux. Le froid régnait, la guerre, la peur. Elle berçait l'autre, le premier grognait. Elle en berçait un, l'autre alors pleurait. C'était deux beaux bébés, un garçon et une fille. les plus beaux bébés du monde. Que faire ? Que faire ? Se demandait l'ex-faux coiffeur. Déjà 2 jours de voyage, l'odeur insoutenable, le saut sur la paille dans un coin et la honte partagée, la honte voulue, prévue par ceux qui les expédiaient on ne sait où. Les réduire à rien d'abord, puis à moins que rien, ne rien laisser d'humain en eux, soit. Mais il se devait, pour ses enfants, qu'il voyait mordre tout en retour les seins de son épouse, sans que rien n'en sorte, il se devait de trouver une solution. À chaque arrêt du train, en pleine voie, il craignait qu'on reparte dans l'autre sens, qu'on s'arrête dans une gare et qu'on jette des wagons, les mourants, les enfants, les vieillards. Il se mordait les mains. Que faire ? Que faire ? Il gagna la lucarne en s'excusant, poussant l'un, repoussant l'autre. La neige dehors ralentissait la marche du train. Puis, le train s'immobilisa un court instant avant de repartir. C'est alors qu'il comprit. Il bouscula les uns les autres. Il rejoignit le châle de laine de Pyrénées. Surtout, ne pas choisir. Surtout, ne plus réfléchir. Se saisir de l'un d'eux, de l'un des deux. Ne pas choisir entre le garçon et la fille. Il prit le premier qui lui tomba sous la main. Il avait déjà sorti de sa poche son châle de prière. L'enfant somnolait. Dina regarda un instant, puis referma les yeux, elle aussi, serrant l'autre chemin. Lui, tout en dépliant son châle, regagna la lucarne. Les barreaux permettaient de sortir un bras. Le train reprit un peu de vitesse. Il découvrit la forêt, des arbres croulant sous la neige. Il distingua une silhouette qui semblait courir après le train, levant les pieds haut dans la neige et qui criait. Il serra l'enfant, l'enveloppa dans son châle de prière. Fébrile, il souleva l'enfant enveloppé dans le châle. La tête passerait-elle ? La tête passée, les épaules suivraient. Puis, s'il fit un geste en direction de la vieille qui s'arrêtait, agenouillée dans la neige, comme si elle remerciait le ciel. Le train sortit du bois.
Pauvre bûcheron, ce matin-là, comme tous les matins, tôt, très tôt, dans ce demi-jour d'hiver, s'essouffle dans la neige afin de ne pas manquer le passage du train. Elle se presse et se presse, ramassant ça et là quelques branchages que le poids de la neige et de la nuit a brisés et jetés au sol. Elle court, arrachant ses pieds chaussés de peau de renardeau retournée et façonnée par les soins de son pauvre bûcheron de mari. Elle court, arrachant les souliers à la neige. Elle court. Quand enfin elle débouche, haletante dans la clairière qui borde la voie ferrée, elle entend son train ahaler. Tout comme elle. S'essouffler, gémir, ralentir comme elle. Gênée par cette neige épaisse et drue qui les empêche l'un et l'autre d'avancer. Elle fait des gestes de ses bras tout en hurlant « Attends-moi ! Attends-moi !» Le train ahale et avance. Mais cette fois-ci, en passant, il lui répond. Le train de marchandises, le convoi 49, lui répond. D'abord, un drapeau a surgi de l'étroite lucarne, brandi par une main humaine ou divine, qui le lâche soudain. Et le drapeau vient déposer sa charge dans la neige à quelques 20 pas de notre pauvre bûcheronne qui en tombe à genoux, main serrée sur sa poitrine, ne sachant que faire pour remercier les cieux. Mais la main dans la lucarne se tend maintenant vers elle, et d'un doigt péremptoire, impérieux, lui fait signe de ramasser le paquet. Ce paquet est pour elle.
pour elle seule. Il lui est destiné. Pauvre bûcheronne se débarrasse alors de son maigre fagot d'hiver et aussi vite que la neige le lui permet, elle se précipite sur le petit paquet pour l'arracher à la neige. Puis, avidement, fébrilement, elle défait les nœuds comme on arrache l'emballage d'un cadeau mystérieux. Alors apparaît, aux merveilles, l'objet qu'elle appelait depuis tant de jours de ses vœux, l'objet de ses rêves. Mais voilà que le petit paquet, l'objet à peine défait, au lieu de lui sourire et de lui tendre les bras comme le font les bébés sur les images pieuses, s'agite, hurle, serre les poings, les brandissant bien haut dans son désir de vivre torturé par la faim. Notre pauvre bûcheronne serre le petit être contre elle, l'enfouissant sous ses fichus superposés. Et la voilà qui se met à courir, et courir encore, serrant son trésor contre sa poitrine. Soudain, elle s'immobilise. Elle sent une bouche avide qui vient téter son maigre sein, puis cesse et hurle de nouveau, s'agitant encore davantage, se débattant, criant, hurlant. Il a faim. Cet enfant a faim. Mon enfant a faim. Elle se sent devenue mère, à la fois heureuse et mortellement inquiète, comblée mais dépassée. La voilà mère, et mère sans lait. Mon enfant a faim. Que faire ? Que faire ? Arrivée au logis, le petit paquet posé sur le lit se tortille de plus belle, animé de l'énergie du désespoir et d'une faim de loup pris au piège. Pauvre bûcheronne allume alors un feu, verse de l'eau dans sa bouilloire et cherche encore. Pendant que l'eau bout, elle trouve un reste de cachat qu'elle va faire macérer dans l'eau bouillie. Mais avant, pour calmer son petit paquet, elle tend son doigt vers la bouche avide. Le petit paquet s'en empare et tète, avec une rage obstinée. Puis soudain, s'avisant de la supercherie, il cesse de téter et se remet à hurler. Pauvre bûcheronne, pleurant en écho, le prend contre elle, tout en écrasant la cacha pour en faire une bouillie qu'elle tente, à l'aide d'une cuillère, de glisser dans la bouche hurlante. N'y arrivant pas, elle retrempe ce même doigt dans la cacha écrasée et l'offre de nouveau à la bouche de l'enfant qui tète encore avec passion, puis lâche le doigt en recrachant la mère cacha. Pauvre bûcheronne en profite pour lui faire avaler un peu d'eau de cuisson. Puis elle retend son doigt. L'enfant tète à nouveau. Peu à peu, avec de l'eau qui désaltère, de la cacha qui trompe sa faim, l'enfant se calme dans les bras de sa nouvelle mère, tandis que pauvre bûcheronne chuchote à son oreille comme une chanson, une berceuse revenue de la nuit des temps et qui la surprend elle-même. Puis elle dépose délicatement son précieux trésor au creux de son lit. Ses yeux alors se posent sur le châle déplié qu'elle a mis à sécher à même le lit. Un châle somptueux, fait de fils si fins, tissés si serrés, ornés de franges aux deux bouts et brodés de fils d'or et d'argent. Jamais elle n'a vu ni touché un châle aussi précieux. Bientôt, elle s'assoupit à son tour, son petit paquet, sa petite marchandise serrée dans ses bras, enveloppée dans le châle féerique. Elle dort, notre pauvre bûcheronne. Elle dort, son bébé bien serré dans ses bras. Elle repose du sommeil des justes.
La nuit est venue, tandis que pauvre bûcheronne et son don des dieux, des cieux dorment. Pauvre bûcheron, harassé par son labeur d'intérêt général, entre au logis. Au bruit qu'il fait, la petite marchandise se réveille et, retrouvant sa faim inassouvie, pleure aussitôt.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Un enfant ?
Qu'est-ce que c'est que cet enfant-là ?
Les dieux du train m'en ont fait don.
Les dieux du train ?
Pour qu'il devienne l'enfant chéri que je n'ai jamais eu.
Ne sais-tu pas ce que c'est que cet enfant ? Ne sais-tu pas, il pue. Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient?
C'est un rejeton de la race maudite. Ses parents l'ont jeté du train dans la neige, car ce sont des sans-cœur.
Non, ce sont les dieux du train qui m'en ont fait don.
Ne sais-tu pas qu'on n'a pas le droit, sous peine de mort, de cacher des sans-cœur? S'ils le trouvent chez nous, ils nous colleront au mur.
Mais qui le saura?
Les autres bûcherons nous dénonceront. Aux chasseurs de sans-cœur.
Non, je dirais que cet enfant est mien, que je suis devenue enfin grosse, grosse de tes œuvres.
Il ne peut être nôtre. Il est marqué.
Mais comment ça, marqué?
Ignores-tu que les sans-cœur sont marqués et que c'est ainsi qu'on les reconnaît?
Comment ça?
Leur nature n'est pas comme la nôtre.
Je n'ai vu aucune marque.
Vois! Vois!
Vois quoi?
La marque.
Quelle marque? Je ne vois pas de marque.
Vois, il n'est pas fait comme moi.
Non, mais elle est faite comme moi. Vois comme elle est belle. Pauvre bûcheron détourne les yeux précipitamment, puis après s'être gratté le cipu sous son bonnet, referme le petit paquet qui repousse de ses petits poings fermés les mains qui l'assaillent. Que fais-tu? S'inquiète pauvre bûcheronne, voyant pauvre bûcheron s'en saisir et gagner la porte. Où vas-tu?
Je vais le redéposer près de la voie ferrée.
Fais ça, bûcheron, et tu devras me jeter avec elle sous les roues du train de marchandises. Pauvre bûcheron, immobile, hésite un instant. Il rend à pauvre bûcheron le petit paquet, devenu petite marchandise, puisque sa nature nous a été dévoilée et que cette nature est incontestablement féminine. Pauvre bûcheron, alors, serrant sa petite marchandise contre son cœur, dit « Elle fera mon bonheur et le tien. »
« Merci. Garde tout le bonheur pour toi. Grand bien te fasse. Mais sache que je ne veux plus l'entendre ni la voir jamais. Va la mettre dans la remise au bois coupé. Fais la terre et tiens-toi-le pour vie. »
Pauvre bûcheron, tout en berçant sa petite marchandise, gagne la remise au bois coupé, vide de planches, et s'y installe avec l'enfant que les dieux lui ont donné à chérir. Pauvre bûcheron entre sur ses talons et lui jette une peau d'ours piquée et rongée par les mulots.
Tiens, et va pas en plus te choper la crève.
L'enfant pleure encore dans un demi-sommeil. Pauvre bûcheron la berce encore, la serrant bien fort, en lui couvrant le front de petits baisers tout doux. Elles s'endorment ainsi toutes deux. Le train de marchandises, désigné comme convoi 49 par la bureaucratie de la mort, partit de Bobigny-Gare près de Drancy-Seine le 2 mars 1943, arriva le 5 mars au matin au cœur de l'enfer sans Tirbus. Après réception de la marchandise, il fut aussitôt procédé à son tri. Les experts trieurs, tous médecins diplômés, après examen, ne conservèrent que 10% de la livraison. Une centaine de têtes sur 1000. Le reste, le rebut, vieillards, hommes, femmes, enfants, infirmes, s'évapora après traitement en fin d'après-midi dans la profondeur infinie du ciel inhospitalier de Pologne. C'est ainsi que Dina et son enfant, Henri, frères jumeaux de Rose, s'affranchirent de toute pesanteur en gagnant les limbes du paradis promis aux innocents.
Dans bien des contes, et nous sommes bien dans un conte, on trouve un bois. Et dans ce bois, un espace plus touffu qu'alentour où l'on ne pénètre qu'avec difficulté. Un espace sauvage et secret, protégé des intrus par sa végétation même. Pauvre bûcheronne connaît son bois comme sa poche. Elle sait qu'un être humain y vit seul, un être qui fait peur et horreur à tous et toutes, et que même les vers de gris et leurs misérables miliciens craignent de croiser. Un être que certains disent maléfique, tandis que d'autres le nomment l'ami des bêtes et l'ennemi des hommes. Elle-même l'a entreaperçu certains jours alors qu'elle fagotait à la lisière de cette forêt
où il semble régner en maître absolu et solitaire. Elle sait également, hélas, elle l'a compris au petit matin, que sa petite marchandise ne pourra survivre et prospérer sans lait. Après le départ de pauvre bûcheron, elle s'est enrouée dans ses fichus et y a glissé sa petite marchandise, enveloppée, elle, dans ce châle frangé d'or et d'argent et qui semble tissé par les mains de fées. Ensuite, elle a gagné cette partie du bois où nul ne s'aventure sans trembler ni remettre son âme à Dieu. Elle guette. L'homme est-il là? La voit-il? Et la chèvre? La chèvre est-elle encore de ce monde? Donne-t-elle encore du lait? Pauvre bûcheronne pénètre dans l'obscurité, passant sous les branches basses.
Qui va là?
Pauvre bûcheronne s'immobilise. Que veut la pauvre bûcheronne?
Du lait pour son enfant?
Du lait pour son enfant. On entend alors un rire sinistre. Puis après quelques grattements de bottes sur le bois pourri, paraît un homme coiffé d'une chapka et armé d'un fusil.
Pourquoi ne lui donnes-tu pas du tien?
Je n'ai pas de lait, hélas. Et si cet enfant que tu vois n'a pas de lait aujourd'hui, elle mourra.
Ta fille mourra. La belle affaire, tu en feras une autre.
Je n'ai plus l'âge. Et puis cet enfant m'a été confié par le dieu du train de marchandises qui passe et repasse sur la voie ferrée.
Dis-moi, pauvre bûcheronne, d'où veux-tu que je te tire du lait?
Du pis de ta chèvre.
Ma chèvre? Et comment sais-tu que j'en ai une?
Je l'ai entendu bêler en fagotant à la lisière de ton domaine.
Que me donneras-tu en échange de mon lait?
Tous les jours que les dieux feront, je viendrai, hiver comme été, t'apporter un fagot contre 2 gorgées de lait. Sans lait, ma fille va mourir.
Tant de gens meurent.
Ce sont les dieux qui me l'ont confiée. Si tu m'aides à la nourrir, elle vivra. Ils t'en seront reconnaissants et ils te protégeront. Oh,
ils m'ont déjà assez protégée comme ça. Il arrache sa chapka et découvre un front cabossé, une tempe écrasée et une oreille manquante. Désormais, je me passe de leur protection et me protège tout seul.
Je t'amènerai 2 fagots chaque jour pour une seule gorgée de lait.
On voit que tu t'y connais en affaires. La petite marchandise pleure doucement. Les grands cris sont passés. Elle n'a plus de vigueur. L'homme à la chèvre et à la gueule cassée examine l'enfant puis conclut. Cette créature divine a faim, comme un vulgaire enfant humain. Je vais te donner une mesurette de lait de ma chèvre. Ce qu'il te faudrait, c'est du lait d'ânesse, mais je n'en ai point. Alors, ce lait de chèvre que je vais te donner pendant 3 mois tous les matins, tu le couperas d'eau bouillie à proportion de 2 mesures d'eau pour 1 mesure de lait. Et tu compléteras sa nourriture avec de la bouillie et puis des fruits et légumes frais au printemps. Elle apprend avec amour, puis se jette aux genoux de l'homme et tente de lui embrasser la main. Celui-ci recule. Relève-toi. Pauvre bûcheronne, laisse couler ses larmes.
Tu es bon?
Non. Nous avons conclu un marché. J'attends tes fagots dès demain.
Qui t'a cassé la tête, homme de bien?
La guerre.
Celle-ci?
Une autre, qu'importe. Ne t'agenouille plus jamais devant moi, ni devant quiconque. Ne dis plus jamais que je suis bon, et ne va pas répandre le bruit que j'ai une chèvre et que je donne du lait. Viens, je vais te donner ce qui te revient. Ainsi fut fait. Tous les matins, la pauvre bûcheronne déposa son fagot et ramassa en retour un gorgeton de lait chaud. Et c'est ainsi que la pauvre petite marchandise misérable et si précieuse, grâce à l'homme des bois et à sa chèvre, subsista et survécut.
À la nuit tombée, lorsque pauvre bûcheron rentrait, traînant ses membres endoloris et sa carcasse brisée par sa journée de labeur d'intérêt général, il ne voulait ni voir, ni encore moins entendre la petite jumelle solitaire. Pauvre bûcheronne tentait donc de l'endormir avant son retour. Mais il arrivait que la petite grogne encore ou s'agite dans son sommeil. Pauvre bûcheron tapait alors de son gros poing sur la table, tout en grommelant dans sa barbe d'une voix rendue haineuse par l'alcool de bois qu'il consommait avec ses camarades de travail.
« Je ne veux ni voir ni entendre ce suppôt du diable, cette sans cœur de malheur. Fais la terre ou par le ciel, je te la saisis et te la jette au pourceau. »
Fort heureusement, pauvre bûcheron, épuisé comme il l'était, ne tardait guère à dodeliner du bonnet avant de s'effondrer sur la table et de s'endormir ainsi du sommeil des injustes. Une certaine nuit, cependant, la petite marchandise s'agita plus que de coutume, réveillant pauvre bûcheron dans son premier sommeil. Celui-ci, alors, dans sa grande ire, en vint à vouloir porter la main sur elle. Pauvre bûcheron saisit alors au vol la grosse paluche calleuse de son pauvre bûcheron de mari, la retint un instant en suspens, avant de la poser délicatement, bien à plat, sur la poitrine toute secouée de sanglots de sa chère petite marchandise. Pauvre bûcheron, effleurant ainsi de sa paume, malgré lui, cette peau si douce et si blanche, tenta d'arracher sa main de l'étreinte de la pauvre bûcheronne. Mais celle-ci, de ses deux mains réunies, la tenait fermement plaquée sur la cage thoracique de la fillette, tout en murmurant à l'oreille de pauvre bûcheron, qui ne cessait, lui, de hurler qu'il ne voulait plus de cette créature du diable, de cette sans cœur de malheur. Pauvre bûcheron, toujours pesant sur la main du pauvre bûcheron, murmura délicatement « Les sans cœurs ont un cœur. Les sans cœurs ont un cœur comme toi et moi. »
« Non. »
« Petits et grands, les sans cœurs ont un cœur qui bat dans leur poitrine. » Pauvre bûcheron dégagea soudain sa main d'un coup d'épaule tout en secouant toujours sa tête et en crachant maintenant entre ses dents, répétant les tristes slogans de ses jours si sombres.
« Les sans cœurs n'ont pas de cœur. Les sans cœurs n'ont pas de cœur. Ce sont des chiens errants qu'il faut chasser à coups de hache. Les sans cœurs jettent leurs enfants par les lucarnes des trains et c'est nous, pauvres couillons, qui sommes obligés de les nourrir. »
Il crachait ainsi sa bile la plus noire tout en éprouvant lui-même un trouble, une chaleur, une douceur nouvelle que le bref contact de sa paume avec la peau et le cœur de la petite marchandise avait fait naître jusque dans son propre cœur à lui qu'il sentait battre désormais dans sa propre poitrine. Quand la pauvre bûcheronne tendit à son tour l'enfant vers lui, il recula encore, comme frappé en pleine poitrine, tout en répétant machinalement qu'il ne voulait plus voir ni nourrir cette chose, et tout en refoulant au plus profond de l'obscurité de sa carcasse l'envie de répondre à ses bras tendus, offerts. Il reprit pied, enfin, en même temps que ses esprits, et reprit également l'offensive, menaçant la pauvre bûcheronne d'avoir demain à choisir entre lui, honnête bûcheron son mari, et ce résidu de fausse couche, tueur de Dieu, qu'elle tenait dans ses bras. Et avant que pauvre bûcheronne eût pu lui répliquer, il s'écroula sur sa couche et s'endormit cette fois-ci du sommeil du presque juste.
Désormais, dans le secret de son cœur noyé dans une douceur inconnue, il nommait lui aussi la petite sans cœur sa petite marchandise à lui. Et lorsque par grand et rare hasard il se trouvait en tête à tête avec elle, il tendait vers elle un doigt hésitant qu'aussitôt la petite agrippait et ne voulait plus lâcher.
Un jour même, la petite, se traînant à quatre pattes sur le sol de la hutte, s'accrocha au bas de son pantalon. Et ainsi, s'aidant de ses deux mains, elle se redressa en se cramponnant à un de ses genoux rapiécés. Pauvre bûcheron ne put réprimer un cri.
« Oh, la vieille, viens, viens voir, viens voir !»
La petite, maintenant, ne se tenait plus que d'une main, chancelante, cherchant son équilibre. Pauvre bûcheron exulté.
« Tu la vois? Tu la vois ?»
Pauvre bûcheronne s'extasia, puis applaudit. La petite, tentant d'applaudir à son tour, lâcha le pantalon et se retrouva sur le cul, au sol, dans un grand éclat de rire. Pauvre bûcheron arracha l'enfant du sol et la brandit comme un trophée de victoire, hurlant de joie. Les jours suivants, pauvre bûcheron, tout comme pauvre bûcheronne, ne ressentirent plus le poids des temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leurs conditions. La joie, le bonheur aidant, pauvre bûcheron travailla avec plus d'entrain, plus de force. Ses camarades l'apprécièrent davantage. Et malgré son mutisme, le convirent encore plus souvent à leur libation d'après-boulot. L'un d'entre eux, plus entreprenant, s'était improvisé producteur d'alcool de bois fait maison. Il leur fournissait la boisson. Alors, j'ignore la recette de cet alcool de bois fait maison, hein. Mais même si je la connaissais, je ne vous la livrerai pas. Sachez simplement qu'il est déconseillé d'en consommer et que cet alcool de bois à haute dose peut rendre aveugle. Donc, après le travail,
aigou.
Certains soirs, pauvre bûcheron consentait à lever le coude avec ses collègues, retardant ainsi le plaisir de rentrer près de sa petite marchandise adorée. Il faisait ainsi partager sa bonne humeur nouvelle à ses compagnons d'infortune.
Aigou.
Et on portait un toast, puis un autre. À quoi? À qui? L'un d'entre eux proposa de boire à la fin prochaine de cette guerre maudite.
Aigou.
Ils burent ensuite à la fin des 100 cœurs maudits.
Aigou.
Un camarade à propos des 100 cœurs déclara alors que le train qui passait plein et qu'on voyait repasser vide, transportait, on ne sait où, des 100 cœurs venus des 7 coins du monde. Un autre réenchérit.
Pendant que nous, on se crève le cul à la paillasse pour des salaires de misère, les 100 cœurs, eux, sont baladés gratos en trains spéciaux.
Un troisième précisa enfin.
Les 100 cœurs ont tué Dieu et ont voulu cette guerre. Ils ne méritent pas de vivre et leur guerre maudite ne finira que lorsque la terre se sera enfin débarrassée d'eux à jamais.
Égout.
À leur disparition.
Égout. À mort les 100 cœurs.
Conclurent-ils en cœur. Pas tout à fait en cœur. Pauvre bûcheron, notre pauvre bûcheron, bon, tous étaient bûcherons et pauvres, hein. Le nôtre, donc, avait bu, mais s'était tu. Les camarades se tournèrent alors vers lui comme un seul homme, attendant d'entendre sa parole. Ils n'eurent pas longtemps à attendre.
Aigou.
Pauvre bûcheron s'essuya la bouche d'un revers de poignet, puis dans le silence, il s'entendit dire et se surprit lui-même.
Les 100 cœurs ont un cœur.
Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pauvre bûcheron alors se surprit encore à prosférer d'une voix assourdissante cette fois, d'une voix qu'il n'avait jamais sentie sortir de sa propre gorge. « Pauvre bûcheron, dis-je, après avoir jeté son gobelet de fer sur la table branlante, reprit. « Les 100 cœurs ont un cœur !» Puis il partit d'un bon pas, zigzagant cependant vers sa hutte, sans chez-soi, sa hache sur l'épaule, effrayé soudain d'avoir ainsi crié sa vérité. La vérité. Les 100 cœurs ont un cœur. Il marchait vers sa bûcheronne bien-aimée. Il marchait vers sa petite marchandise dont les dieux, ou on ne sait qui d'autre, lui avaient fait don. Il marchait et il chantait, ivre de liberté et d'amour.
Les camarades, consternés, constatèrent. Non mais, il tient plus du tout l'alcool. Il est bourré, non mais il débloque. Eh, il ira mieux demain à la fraîche. Et ils se mirent à chanter, eux aussi, des chansons que leur maître, les chasseurs de son cœur, leur envahisseur, leur avait apprises. Des chansons qui disent ceci. Nous planterons nos couteaux dans les poitrines vides des sans-cœurs, jusqu'à qu'il n'en reste aucun et qu'il nous ait rendu tout ce qu'ils nous ont voulu. Égout, 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 que crèvent les sans-cœurs. Égout, égout, égout.
Les jours, les mois passèrent. Le faux coiffeur, le père des ex-jumeaux, tondait, tondait et tondait. Puis ramassait les cheveux, les blonds, les bruns, les roux, et il en faisait des ballots. Ballots qui rejoignaient d'autres ballots, d'autres milliers de ballots, faits d'autres cheveux. Le père des ex-jumeaux souhaitait mourir, mais tout au fond de lui poussait une petite graine, insensée, sauvage, résistant à toutes les horreurs vues et subies. Une petite graine qui poussait et poussait, lui ordonnant de vivre, ou tout au moins de survivre. Survivre. Les jours, les mois passèrent, et petite marchandise, un de ces jours plus heureux que d'autres, se tint soudain bien droit et fit ses premiers pas. Depuis, elle trottait devant ou derrière pauvre bûcheronne, et le soir, elle courait au-devant de pauvre bûcheron. Et quand celui-ci l'a essayé jusqu'à son visage, jusqu'à sa barbe, elle tentait de lui ôter son bonnet ou de lui tirer les poils, ou bonheur suprême, d'attraper à pleine main, son gros nez. Il tendait alors la petite marchandise à pauvre bûcheron et se mouchait bien fort avant d'essuyer ses yeux humides. Un de ces jours encore plus beaux, la petite fonça sur pauvre bûcheron, bras tendus en criant « Papa, papa !» dans cette langue bizarre qu'on parlait dans ce pays lointain. Papa se disait papouch, maman mamouch. Papouch, mamouch. Ils se serraient alors tous trois dans un même enlacement qui finissait par des rires et même par une chanson qui parlait de père, de mère, d'enfants perdus et retrouvés.
Un jour que pauvre bûcheronne et petite marchandise revenaient toutes deux de fagoter, elles croisèrent dans le sous-bois le distillateur d'alcool de bois. Le distillateur, découvrant la petite, s'informa poliment. D'où sort cet enfant ? Pauvre bûcheronne répondit qu'elle était sienne. Le distillateur fixa alors la petite marchandise longuement, comme s'il voulait la soupeser. Puis il fixa pauvre bûcheronne avant de lui sourire et de la quitter, non sans avoir soulevé son chapeau de taupe, tout en déclarant d'une voix enjouée « Bonjour à vous ». Ce matin-là, peu avant l'aube, le camarade au chapeau de taupe, accompagné de deux miliciens encombrés de fusils datant d'une précédente guerre mondiale, vinrent prendre livraison de la petite marchandise. Pauvre bûcheron les accueillit sur le pas de la porte. D'abord, il nia. Il dit que c'était sa fille. L'un des miliciens demanda pourquoi il n'avait pas déclaré sa naissance en mairie. Il répondit qu'il n'aimait pas remplir des papiers et qu'elle avait grandi ainsi sans papiers. Enfin, il accepta sous peine de mort. La loi, c'est la loi, camarade. Il accepta, dis-je, mais il demanda, comme une faveur spéciale, de remettre l'enfant à son camarade de travail, afin de faire ça en douceur, afin de ne pas effrayer avec des fusils ni la petite, ni surtout son épouse. Il fit passer le camarade devant lui en prévenant sa pauvre bûcheronne d'une voix haute. « C'est le camarade de chantier.
prépare la petite et sers à boire aux camarades. » La bûcheronne surgit. Elle portait l'enfant qui aussitôt tendit ses bras vers le bûcheron. Celui-ci alors saisit sa hache et en frappa le camarade distillateur tout en criant à sa bûcheronne « Sauve-toi ! Emporte la petite !» Puis il redonna un coup sur la taupe qui ornait le crâne de son camarade de travail. Il sortit enfin de la cabane, la tête haute, et attaqua l'un des miliciens. Il l'abattit comme une bûche pourrie. L'autre alors, reculant, trébucha, tira en l'air puis visa le bûcheron, qui, hache levée, s'avançait vers lui. Pauvre bûcheronne alors sortit en courant, tandis que le bûcheron hurlait en s'affalant. « Cours, ma belle, cours, sauvez-vous, sauvez-vous, que Dieu fasse crever tous les maudits sans âme ni foi, que vive notre !» Et il murmura, « Petite marchandise. »
« Cours, 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 pauvre bûcheronne, cours et serre contre ton cœur ta si fragile marchandise. Cours sans te retourner. Cours, 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 et cours encore. » Elle sait. Elle sent que les chasseurs de son cœur sont déjà à ses trousses pour lui arracher sa petite marchandise chérie. Et soudain, voici pauvre bûcheronne et sa si précieuse petite marchandise en lisière de cette partie du bois si touffue que nul ne sait comment y pénétrer. Une voix connue, à la fois crainte et souhaitée, retentit.
Qui va là ?
Pauvre bûcheronne. Pauvre bûcheronne voudrait tout dire à l'homme au fusil, à la chèvre et à la tête cassée. Tout. Des craintes, des sans-coeurs, de la hache aussi.
N'en dis pas plus. Je connais la noirceur du cœur des hommes. Ton bûcheron et sa hache ont bien travaillé. Et si tes tourmenteurs le justifient, je saurai à mon tour bien travailler. Confie-moi ta petite marchandise et suis-moi.
Pauvre bûcheronne tend alors l'enfant que l'homme au fusil, à la chèvre et à la tête cassée, reçoit avec douceur et dignité, comme il sied au porteur d'objets sacrés. Ils avancent tous trois en silence. L'homme, toujours portant l'enfant, s'approche d'une cabane dressée à côté d'un rocher. Il ne pénètre pas dans la cabane. Il se dirige droit à la roche et se glisse dans une sorte de grotte où une chèvre minuscule, au pied lourd cependant, lui fait fête dans sa joie de recevoir ainsi un peu de visite. L'homme au fusil à la tête cassée dépose alors l'enfant face à la chèvre. Elles sont de même hauteur. L'homme fait ainsi la présentation.
« Fille des dieux, voilà ta mère nourricière, ta troisième maman. » Les jours succédèrent aux jours, les trains aux trains. Dans leurs wagons plombés agonisait l'humanité, et l'humanité faisait semblant de l'ignorer. Les trains provenant de toutes les capitales du continent conquis passaient et repassaient. Ils passèrent et repassaient, nuit et jour, jour et nuit, dans l'indifférence générale. Nul n'entendit les cris des convoyés, les sanglots des mères se mêlant aux râles des vieillards, aux prières des crédules, aux gémissements et aux cris de terreur des enfants séparés de leurs parents déjà livrés au gaz. Et puis les trains cessèrent de rouler. Ne roulant plus, ils cessèrent de livrer leur si misérable cargaison de crânes à raser. Plus de train, plus de crânes. Cependant que notre héros, ex-père de jumeaux, ex-mari de son épouse bien-aimée, devenu soudain ex-raseur des crânes, s'effondra, vaincu par la faim, la maladie et le désespoir. Autour de lui, les rares survivants encore conscients murmuraient. Il faut tenir, tenir, tenir et tenir encore. Ça va bien finir par finir. Déjà, on entend les canonnades au loin. Un camarade lui dit sa mêle dans le tuyau de l'oreille.
Les rouges arrivent. Les têtes mortes vont finir par chier dans leurs bottes.
En attendant, les dites têtes mortes leur faisaient creuser des fosses à même la neige, afin d'y faire brûler le trop-plein des cadavres amoncelés au pied des crématoires qu'il devait également détruire d'urgence afin d'éliminer, avec les derniers témoins, les traces de leur crime immense. De jour comme de nuit, il délirait. Il délirait en piétinant la neige. Il délirait en creusant. Il se remémorait. Pire, il revivait l'instant fatal. L'instant où il avait arraché des bras de son épouse l'un de leurs jumeaux. Il revivait sans cesse l'instant où il avait précipité du train dans la neige. Cette neige qu'il piétinait et piétinait tout en creusant son propre trou pour s'y faire enfin brûler à son tour. Pourquoi n'avoir pas accompagné son épouse et leurs deux enfants jusqu'au bout, jusqu'au but du voyage? Il s'effondra soudain. Deux camarades, au risque de leur propre survie, le traînèrent dans une baraque proche afin de lui éviter d'être jeté à demi-vivant dans les flammes. Quand il reprit connaissance, il se sentit bien dans cette baraque, parmi les corps amoncelés. Il trouva le lieu propice à y espérer la mort, la délivrance enfin.
La mort ne vint pas, et la délivrance se présenta à lui sous l'apparence d'un jeune soldat étoilé de rouge, dont les yeux exorbités témoignaient de l'horreur qu'il venait de découvrir. Après avoir constaté que le cadavre qui le dévisageait vivait encore, le jeune soldat étoilé lui glissa le goulot de sa gourde dans la bouche et quelques biscuits dans les mains, puis il le prit dans ses bras, l'arrachant au tas de mourants, et le déposa devant la baraque, sur un bout de terrain sans cadavre, sous le soleil du printemps renaissant. Comment trouva-t-il la force de se dresser, puis de marcher, et de marcher, et de marcher encore? Le chant du rossignol suffit-il pour que naisse l'idée que sa fille, sa si petite fille inconnue et chérie, avait pu survivre? Peut-être, elle aussi. Et que si elle avait survécu, il se devait désormais, il en avait le devoir, de tout faire pour la retrouver. Il se mit donc en marche, suivant les rouges qui avançaient droit devant eux. Il arriva enfin près d'un camp, dit de regroupement, peuplé de réfugiés et autres personnes déplacées, fuyant les rouges, mais rattrapés par leur avance fulgurante. Son aspect spectral, orné de son numéro tatoué sur son avant-bras, lui servit de passeport. Il y fut logé et nourri. Mais une fois installé, il revécut l'instant fatal. Le train, la neige, le bois, le châle, la vieille, l'espoir aussi. Et surtout, surtout le regard de son épouse se détournant de lui à jamais et pour toujours. Pourquoi? Pourquoi n'avait-il pas laissé le sort commun les détruire tous les quatre ensemble? Ensemble. Pauvre bûcheron ne s'aperçut pas que les trains de marchandises ne traversaient plus son bois. Trop captivé par le spectacle de sa petite marchandise à elle, qui grandissait et prospérait à vue d'œil. La petite ne cessait de rire, de chanter, de gazouiller et de danser avec sa chèvre devenue plus que sa sœur, sous l'œil bienveillant de l'homme au fusil et à la tête cassée. L'homme au fusil, lui, guettait. L'oreille tendue vers l'est. Il savait que les rouges avançaient. Il se réjouissait tout en les craignant. Il les craignait comme il avait craint les vers de gris à tête de mort, ainsi que leurs valets et autres collaborateurs. Une fois par semaine, il se rendait dans l'un des villages proches de sa forêt afin d'y troquer ses fromages de chèvre contre des produits de première nécessité. Fusil en main, l'homme à la tête cassée arpentait son fief sur le flanc est de son domaine, bien décidé à faire respecter ses droits de propriété au nouveau envahisseur. Deux soldats rouges se glissèrent avec précaution dans le bois. Apercevant un homme armé d'un fusil, ils le couchèrent au sol d'une rafale de mitraillette. Puis, avec précaution, l'un des soldats s'en approcha, retourna le corps du pied, Puis constatant que le visage de l'homme n'avait rien d'attrayant, il adressa une grimace de dégoût à son compagnon en concluant d'une voix méprisante, un vieux moche. Le lendemain matin, après une nuit d'angoisse, pauvre bûcheron découvrit le corps gisant de l'homme à la tête cassée et au cœur compatissant. Elle pleura beaucoup, ce qui fit pleurer sa petite marchandise. Renonçant à l'ensevelir, elle recouvrit sa dépouille de branchages fleuris, puis pauvre bûcheron improvisa une prière sous forme d'un remerciement et d'un souhait. Qu'enfin, cet homme si bon trouve la paix et le bonheur que lui fut refusé sur cette terre, qu'il les trouve là où les dieux l'accueilleront. Elle eut une pensée pour les dieux du train, mais ne la formula pas. Elle n'avait plus confiance en eux. Elle savait que si l'enfant, son enfant, avait survécu, ce n'était pas grâce à eux. C'était grâce à la main, la lâchant du train sur la neige, grâce à la bonté de l'homme au fusil et à sa chèvre. Bénissez-les, conclut-elle. Elle ramassa les quelques hardes, enveloppa les fromages fraîchement fabriqués et les ustensiles pour les mettre dans le châle de prière, puis, sa fillette à la main, sa chèvre tenue en laisse, chargée comme un baudet, elle se mit en marche. Ne sachant où aller, elle se mit à marcher droit devant elle, vers l'est, là où, dit-on, le soleil continue de se lever. Sur la route, elle croisa des centaines de tanks et des camions étoilés de rouge. Elle traversa des villages en ruine et s'arrêtant enfin sur la place de l'un d'entre eux, choisissant une ruine qui lui parut confortable, elle s'y installa. Elle étala le châle de prière sur un banc de mur encore debout. Il disposa ses quelques fromages rescapés et attendit les chalands. Sa fille, confortablement installée sur ses genoux, tandis que la chèvre broutait un reste de talus.
Dans le camp dit de regroupement, se côtoient et se heurtent les anciennes victimes et leurs anciens bourreaux, les uns cherchant à se reconstruire, comme on ne le disait pas encore à l'époque, les autres cherchant à se fondre dans la foule des réfugiés. Ne pas rester là, partir, fuir encore, soit, mais où aller? Où aller, se demandait notre héros, ex-raseur de crâne, ex-étudiant en médecine, ex-père de famille, ex-vivant devenu ombre. Retourner dans le pays d'où il était venu en train après avoir été raflé par la police de ce pays? Partir vers où? Le nord, l'est, l'ouest? Et une fois là, reprendre ses études de médecine? Non. De toute manière, il ne pouvait quitter la région sans savoir. Savoir si sa fille, sa petite fille si fragile, sa petite. Le jour même, il quitta le camp, pécule en poche, fourni par la direction afin de permettre à ceux qui souhaitaient partir de partir, et ainsi de débarrasser le plancher en libérant la paillasse qu'ils occupaient. Il marche, et marche encore à la recherche de la voie ferrée, du bois, des virages, de la vieille agenouillée dans la neige. Il trouve enfin une voie de chemin de fer abandonné. La végétation l'envahit déjà. Il suit cette voie ferrée. Il trouve un bois qu'il traverse, puis un autre qu'il traverse encore, puis un autre encore. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il abandonna la voie ferrée, déjà elle-même abandonnée par ses trains, et il se mit à marcher à travers les villes et les villages. Il ne savait pas ce qu'il cherchait au juste. Il marchait. Sa tête lui tournait et il se rappela qu'il avait faim. Sur une petite table, il vit des fromages, des tout petits fromages. Il eut soudain envie de fromage. Ces fromages minuscules s'étalaient sur une nappe bizarre qui ne convenait pas au fromage exposé. Une nappe qui semblait tissée de fils d'or et d'argent. Il posa une main sur la nappe avec quelques pièces de monnaie et soudain il comprit. Il leva alors les yeux sur la femme, pas si vieille,
assise derrière la petite table couverte de cette nappe bizarre. La femme avait un enfant sur ses genoux. Toutes deux lui souriaient et semblaient l'encourager à choisir un des fromages. La vieille lui parla dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elle lui fit signe de se servir, mais lui n'avait Dieu que pour la fillette. Celle-ci lui fit également signe des yeux et des mains de se servir et lui vanta leur qualité. Puis elle lui désigna la chèvre à ses côtés, lui indiquant que c'était du lait de cette chèvre que les fromages laissaient. Il ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. Sa fille. C'était sa fille. Sa fille jetée du train. Sa fille vouée au four. Sa fille qui l'avait sauvée. Elle vivait. Elle vivait, elle était heureuse, elle souriait. Il esquissa lui-même un sourire, puis tendit une main tremblante vers la joue de la fillette pour caresser cette joue tentante. Il retira sa main précipitamment. Au bord du malaise, il se retira, toujours regardant la vieille, la chèvre et sa petite fille qu'il venait de remettre au monde. Il fixait de toute l'intensité de ses yeux cette marchande de fromage et sa propre fille assise sur ses genoux et s'embrassant. Pourquoi se faire connaître ? Pourquoi rompre l'équilibre ? Qu'avait-il à apporter à sa propre fille ? Rien, moins que rien. Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé. Il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. Il eut le courage de jeter un dernier regard sur sa fillette, retrouvée et reperdue à jamais. Bon, allez, il est temps maintenant de quitter notre petite marchandise et de la laisser vivre sa vie. Pardon ? Vous voulez savoir ce qu'il advint de son expert ? On dit qu'il retourna dans le pays où la police l'avait raflé, lui, sa femme et ses deux jeunes enfants avec des milliers d'autres. Qu'il devint pédiatre et qu'il consacra sa vie à soigner et à aimer les enfants des autres. La petite marchandise, elle, devint pionnière d'élite. Elle reçut un foulard rouge et une étoile rouge également à épingler sur son corsage blanc. Voilà, vous savez tout. Pardon ? Encore une question ? Vous voulez savoir si c'est une histoire vraie ? Une histoire vraie ? Non, mais bien sûr que non, pas du tout. Il n'y eut pas de train de marchandises traversant les continents en guerre afin de livrer d'urgence leurs marchandises ô combien périssables, ni de camps de regroupement, d'internement, de concentration ou même d'extermination, ni de familles dispersées en fumée au terme de leur dernier voyage, ni de cheveux tendus récupérés, emballés puis expédiés, ni le feu, ni la cendre, ni les larmes. Rien. Rien de tout cela n'est arrivé. Rien de tout cela n'est vrai.
Pas plus que ne le sont pauvre bûcheronne et son pauvre bûcheron. Pas plus que les sans-cœurs et les chasseurs des sans-cœurs. Rien. Rien de tout cela n'est vrai. Ni la libération des villes et des champs, des bois et des camps qui n'existaient pas. Ni les années qui suivirent cette libération. Ni la douleur des pères et mères cherchant leurs enfants disparus. Ni même les châles de prière, frangés et brodés d'or et d'argent. Ni l'homme à la chèvre et à la tête cabossée.
Ni l'homme coiffé d'une toppe éventrée et retourné en guise de chapeau. Rien, rien de tout cela n'est vrai. Ni la hache du pauvre bûcheron, la hache qui coupa la toppe en deux avant d'écrabouiller les deux misérables miliciens chasseurs de son cœur.
Rien.
Rien n'est vrai.
La seule chose vraie, vraiment vraie, ou qui mérite de l'être dans cette histoire, car il faut bien qu'il y ait quelque chose de vrai dans une histoire, sinon, à quoi bon se décarcasser à la raconter ? La seule chose vraie, mais vraiment vraie donc,
c'est qu'une petite fille, qui n'existait pas, fut jetée de la lucarne d'un train de marchandises, par amour et par désespoir, fut jetée d'un train, enveloppée d'un châle de prière frangé et brodé d'or et d'argent, châle de prière qui n'existait pas, fut jetée donc dans la neige au pied d'une pauvre bûcheronne sans enfant à chérir, et que cette pauvre bûcheronne, qui n'existait pas, l'a ramassée, nourrie, chérie et aimée plus que tout, plus que sa vie même. Voilà.
Voilà.
Appendice pour amateur d'histoire vraie.
Le convoi numéro 45 partit de Drancy le 11 novembre 1942 avec à son bord 778 hommes, femmes et enfants, dont un grand nombre de vieillards et d'invalides, parmi lesquels figurait l'aveugle Naphtali Grunberg, grand-père de l'auteur. Deux rescapés en 1945.
Le convoi 49 partit le 2 mars 1943, transportant un millier de juifs, dont le père de l'auteur, Zachary Grunberg, ainsi que Sylvia Minkes, née le 4 mars 1942, gazée le 4 mars 1943, jour anniversaire de sa naissance. En 1945, 6 survivants, dont 2 femmes.
Voilà.
Voilà.
Merci.